Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 13 août 2010. Le grand thème au menu de notre émission de ce soir, à savoir publication lundi dernier du calendrier électoral par la commission électorale indépendante. Le scrutin débutera avec l'élection présidentielle et les législatives nationales en novembre 2011 pour se clôturer avec les élections locales en août 2013. Et comme deuxième thème de ce soir, nous parlerons de la clôture mardi dernier à Kinshasa de l'atelier sur la lutte contre la corruption organisée par l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale. Trois confrères participent à ce débat, à savoir Marcel Ngoyouango-Itingé, éditeur du quotidien La Prospérité. C'est un journal qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoy.
Bonsoir Kémy.
Ambroise Mamba, journaliste à Congo Télévision, télévision privée émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise.
Bonsoir Kémy.
Et Pierre Kenemo, directeur des programmes à la radio Sanga FM, émettant depuis Mbujima et Kassai Oriental. Donc il est en ligne, il intervient à partir du Kassai Oriental. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Kémy.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radioocatholique.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux kinois pour voir comment la presse écrite a abordé ces deux thèmes prévus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont fixé leur projecteur sur la publication du calendrier électoral par la commission électorale indépendante. L'avenir titre, les élections 2011, le calendrier est connu. Ce journal annonce que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 novembre 2011 avant de constater que le délai constitutionnel est respecté en ce qui concerne notamment l'élection présidentielle et les législatives. Le potentiel voit l'ombre d'une fraude électorale qui planerait sur l'aboutissement du processus électoral en cours si jamais le recensement de la population congolaise n'était retenu comme préalable prioritaire avant d'aller aux urnes. La Prospérité, quant à elle, s'est penchée sur la réaction de l'Union pour la Nation qui a rejeté en bloc l'ensemble de ce calendrier électoral publié. Selon ce quotidien, le marquant coup de chef de file de l'Union pour la Nation, l'abbé Apollinaire Malou Malou doit faire ses valises en préparant le rapport général des activités de la CEI. Cette position de l'Union pour la Nation est partagée par l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi, estime la tempête des tropiques. Selon ce journal, en séjour à Kananga, Alexis Moutandangoy a désapprouvé l'acte posé par la CEI qui n'a plus qualité pour se mêler de toutes les questions liées à l'organisation des élections en 2011. Le Phare qui a abordé également ce sujet constate que les Congolais sont divisés. Les uns soutiennent l'initiative et les autres la rejettent catégoriquement. La piste de solution serait, selon le Phare, l'organisation des nouvelles négociations politiques en vue de fixer un nouveau chronogramme électoral.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Marcel Ngoy, éditeur du journal La Prospérité, un mot par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Une revue très claire parce qu'elle aborde des sujets importants, notamment ces sujets de la publication du calendrier, parce que cela intéresse l'avenir de la République démocratique du Congo. Et donc je pense que cette revue est riche. Et il mérite d'être bien commenté au cours de cette émission.
Merci Marcel. Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web Télévision. L'actualité à la une, c'est la publication du calendrier. On a même l'impression que cette actualité a noyé les autres informations. Hein.
Effectivement, la revue est bonne parce qu'il y a trois points importants, à mon avis. La publication du calendrier lui-même, et puis les différentes opinions, les différentes réactions, mais également les analyses des confrères. C'est très bien fait.
Merci Ambroise. Pierre Kenemo, vous intervenez à partir de Mbujima et dans la province du Kassai Oriental. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province? Allô Pierre?
Oui.
Votre ligne n'est pas très bonne là. Est-ce que vous pouvez vous déplacer pour améliorer la qualité de la ligne?
Oui, je sais qu'il y a un peu de temps. Je disais tout à l'heure l'actualité qui nous a échappé, c'était d'abord par cette affaire de Mitembele qui se termine par la fin de l'apocalypse.
Allô Pierre, je crois qu'il y a un problème sérieux de ligne téléphonique avec Pierre. Premier thème de ce soir, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 27 novembre 2011 et la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle et des élections législatives nationales se tiendra quant à elle du 27 octobre au 25 novembre 2011. C'est ce qui ressort du calendrier du processus électoral 2010-2013 en RDC, publié lundi soir à Kinshasa par le bureau de la commission électorale indépendante. Dieudonné Mérimo, rapporteur de la CEI, donne ici les différentes échéances de ce processus. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
Du 10 septembre au 10 novembre 2010, déploiement d'équipes et matériel de révision du fichier électoral. Du 30 novembre 2010 au 27 février 2011, collecte des données de la révision du fichier électoral dans les provinces du Bandundu, de l'Équateur, du Katanga, du Kassai occidental, du Kassai oriental, du Maniema, de la province orientale, du nord et du sud Kivu et de la ville-province de Kinshasa. D'ici avril 2011 au 5 mai 2011, centralisation et consolidation des données sur la révision du fichier électoral au Centre national de traitement. Du 13 mai au 12 juillet 2011, réception et traitement des candidatures pour les élections présidentielles et législatives nationales. Du 13 juillet au 11 juillet 2011, réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales. Du 27 octobre au 25 novembre 2011, campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales. Le 27 novembre 2011, premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales. Le 27 novembre 2011, premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives provinciales. Du 24 janvier au 24 février 2012, campagne électorale des élections législatives et provinciales. Du 10 février au 24 février 2012, campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Le 26 février 2012, deuxième tour de l'élection présidentielle et élections législatives provinciales. Le 10 janvier 2012, prestation de serment du président de la République élu au cas où il est élu au premier tour. Le 4 avril 2012, prestation de serment du président de la République élu au cas où il est élu au deuxième tour. Du 12 avril au 11 mai 2012, réception et traitement des candidatures des élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le 13 juin 2012, élection des sénateurs par les assemblées provinciales. Le 12 juillet 2012, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales. Du 24 juillet 2012 au 20 janvier 2013, réception et traitement des candidatures pour les élections urbaines, municipales et locales. Le 31 juillet 2013, élection des conseillers municipaux ainsi que des conseillers de secteur et de chefs. Le 19 mai 2013, élection des chefs de secteur, des bourgmestres et des conseillers urbains. Le 8 août 2013, élection des maires et maires adjoints.
C'était là Dieudonné Mérimo, rapporteur de la CEI, qui donnait les différentes échéances de ce processus électoral. Ambroise Mamba, comment vous analysez ce calendrier électoral?
Un calendrier électoral qui m'a tellement surpris du fait que j'ai trouvé, par exemple, à mon avis, que la CEI n'avait pas ce pouvoir-là de pouvoir publier un calendrier électoral dans ce sens, étant donné qu'il y avait un arrêt rendu par la Cour suprême de justice qui avait donné à la CEI la possibilité d'éponger les arriérés électoraux de 2006. Par arriérés électoraux de 2006, on entend par là les élections locales. Donc la CEI n'avait pas à pouvoir s'impliquer dans les processus électoraux de 2011 à ce niveau. Alors ce qui me surprend également, c'est la répartition des tâches entre la CEI et la CENI. Vous allez peut-être remarquer que dans les communiqués publiés par la CEI finissante, c'est attribué, c'est assigné les missions importantes du processus électoral de 2011. Il s'agit notamment de la révision du fichier électoral. Donc, jusqu'au 5 mai 2011, on n'aura jamais eu de CENI. Ce qui veut dire que cette CENI qui a été contestée en 2006, par rapport au recensement qui n'a pas eu lieu, par rapport à l'enrôlement, vous allez vous rappeler peut-être que l'UDPS avait boycotté en son temps l'opération d'enrôlement des électeurs à cette époque, parce que l'UDPS avait des informations selon elle qui auraient eu beaucoup des mouvements d'entrée au niveau de l'Est, et effectivement, il y a eu des contestations à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, à mon avis, c'est comme si la CEI, ou bien dans les chefs de Malumalu, il n'y a pas cette volonté de pouvoir un peu améliorer ces imperfections qu'il y a eu en 2006. Voilà pourquoi il a tenté de faire ce qu'on appelle le coup de force constitutionnel pour publier un calendrier électoral, s'assigner des missions importantes, puisque la base des élections, c'est la mise à jour des listes électorales. C'est de là que partent les élections. Alors si le gros du travail est effectué par la CEI, la CENI sera quoi à ce moment-là? C'est là que je dis.
Elle a continué le travail.
Le travail avec quelle liste électorale, avec quel fichier électoral, harmonisé par la CEI contestée en 2006. C'est ça le problème. La grande question qu'il faut se poser, celle-là. Est-ce que la CEI ne pouvait pas attendre tout simplement si Malumalu a trouvé qu'il avait confiance, qu'il méritait la confiance du chef de l'État, de l'ANP, parce que par rapport à la répartition des tâches, 4 majorités, 3 oppositions par rapport aux 7 membres du bureau, s'il avait compris qu'il avait encore la confiance de la plateforme présidentielle, il pouvait peut-être attendre qu'on le reconduise.
Peut-être pour gagner le temps, il fallait peut-être faciliter la tâche à la CENI.
Non, ce n'est pas le problème de faciliter la tâche. On peut faciliter la tâche à la CENI, mais la CENI risque de subir le montage de la CENI.
Merci Ambroise. Marcel Ngoy, aussi surpris par la publication de ce calendrier?
Non, je ne peux pas me dire surpris parce que le processus électoral est un processus attendu de tous. Mais seulement, on ne pouvait pas s'attendre à ce que M. l'abbé Malumalu, dont la mission est presque finie parce que les arriérés attendus n'ont jamais été à réaliser. Donc, M. l'abbé, pour nous, c'est un monsieur qui devait commencer à faire ses valises. Alors, c'est la surprise peut-être à ce niveau-là. Mais le calendrier, en soi, on attendait un calendrier pour fixer les échéances. Mais pas forcément un calendrier venant de la CEI, de l'actuelle CEI, mais plutôt un calendrier venant de l'institution dont la loi organique a été publiée à la fin du mois de juillet par le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Alors que Malumalu, à la tête d'une commission électorale dont les bureaux, les membres du bureau, sont tout le temps en contradiction, se permettent d'élaborer un calendrier et de le publier dans les... de la manière dont, à laquelle tout le monde a assisté. Donc, nous pensons que quelque part, il y a des entorses. Des entorses parce que la Constitution de la République dit, par exemple, que pour réaliser le processus électoral, donc les dernières élections par rapport à l'échéance de 2011, parce que le mandat du président de la République, qu'on le dise en passant, c'est un mandat de 5 ans. Aussi, bon, pratiquement, il avait prêté clairement les 6. Il faut dire que le 6 décembre 2011, à minuit, le mandat est terminé. Lorsqu'on fait le compte, aujourd'hui, il en est à 3 ans et plus ou moins 8 mois de gestion. L'année dernière, donc la dernière année qui est l'année de 2011, c'est une année qui était censée être électorale. Mais la Constitution dit qu'il faut que 90 jours avant l'expiration du mandat présidentiel, qu'on ait organisé la dernière élection. En termes, bien sûr, des élections dont le mandat est devenu impératif. Par mandat impératif, je voudrais dire que les gens qui ont été élus en 2006 ont un mandat impératif qui court pour 5 ans. Tandis que les élections qui n'ont pas été organisées comme les élections locales, municipales et urbaines, les mandats ne deviennent impératifs que quand on les a organisés. Alors, pour l'instant, pour les élections, les gens, les opérateurs, les gens qui ont été élus et dont le mandat est impératif, eh bien, le délai court jusqu'au 6 décembre 2011. Alors, question, est-ce que M. l'abbé Malumalu, est-ce que la CEI, l'institution que lui préside, a un mandat de prolonger les mandats de la législature? Parce que pour arriver à envisager des élections au-delà de la législature, il faut en avoir eu les mandats. Deuxième chose, le mandat ici de 5 ans fixé dans une constitution qui a été adoptée par référendum populaire, c'est-à-dire le peuple congolais a été consulté sur la durée des mandats, et la durée des mandats fait partie des matières non négociables, non falsifiables, non révisables.
Et donc, la CEI a violé la Constitution?
C'est vous qui l'avez dit. Je dis tout simplement.
Non, en suivant vos analyses,
il y a des institutions au pays qui peuvent nous aider à faire cela. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il faut faire très attention. Malumalu, au plan politique, vient de poser un acte qui ne se justifie pas, qui n'est même pas facilement explicable. Et il comprend peut-être pas qu'il a joué avec le feu, parce qu'il s'agit ici de l'avenir de la République. Nous, qui nous sommes soustraits de l'évasage, de la consommation de l'onguille et de l'ostoco, nous comprenons que tous les jours de notre vie, nous réfléchissons sur l'avenir de ce pays, même quand certaines personnes passent du temps à faire autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Kelly, on ne peut pas se permettre, un homme comme Malumalu, heureusement d'ailleurs, il a reconnu sur vos antennes qu'il rejette d'office l'offre d'être reconnu à la tête de la CENI, un acte de courage que je salue en passant.
Et j'estime que ce qu'il vient de faire, pour ne pas être, pour ne pas exagérer, nous devons considérer ça comme un document de travail qui sera versé, qui sera placé sur la table de la CENI afin qu'on puisse examiner la faisabilité des élections dans les délais constitutionnels.
Merci Marcel Ngoyi. Pierre Kenemo, vous êtes en ligne?
Je suis à l'une.
Voilà, comment vous avez accueilli ce calendrier électoral en Boujinaï?
Bon, il faut reconnaître que les gens n'étaient pas surpris. Ils avaient déjà prévu ce qui est arrivé là. Nous le disions l'autre fois qu'il est pratiquement difficile d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, compte tenu du retard pris dans l'élaboration des textes et la révision des fichiers électoraux. Retard considéré ici dans beaucoup de salons comme voulu et entretenu. Ce qui n'a pas été également une surprise, c'est le rejet presque au calendrier grec des élections locales. On les attendait ici fermement pour clôturer le premier cycle électoral. Ce n'est pas arrivé. Et au lieu de commencer par où on a arrêté, on les renvoie en 2013. Car cela ne tient qu'il y ait, les gens sont déterminés à aller massivement aux prochaines élections. Ils attendent de pied ferme la révision du fichier électoral pour corriger d'abord le nombre d'élus dans chaque circonscription et peut-être aussi placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vraiment l'engouement et détail ici chez nous.
Merci Pierre. La publication du calendrier du processus électoral suscite des réactions. C'est par exemple celle de Jean-Claude Bemba, député national de l'opposition et président du mouvement du peuple congolais pour la République MPCR, qui dénie cette prérogative à la CEI du moment où, dit-il, la loi sur la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est déjà publiée. Marcel Ambroise Mamba, la loi sur la CENI est déjà publiée, mais les membres qui doivent constituer cette CENI ne sont pas encore...
Oui, ça prendrait combien de temps? Ça prendrait combien de temps? Il y a une session parlementaire qui va s'ouvrir d'ici septembre. Ici, je pense que du côté de l'ANP, il ne va pas se poser beaucoup de problèmes parce qu'il y a une autorité morale pour désigner les quatre représentants. Ce sont des personnalités indépendantes, mais qui doivent bénéficier du quitus des partis politiques. Mais au niveau de l'opposition, il peut se poser problème de blocage parce qu'il y a encore problème de consensus, il faut se concerter, il faut également...
Et ça risque de prendre encore beaucoup de temps?
Mais non, mais là, il risque de jouer avec le temps, ils peuvent cette fois-ci s'entendre un peu vite pour qu'on finisse par mettre sur les bureaux de la CENI. Mais ce n'est pas une raison pour Maluma de pouvoir prendre l'avance pour publier un calendrier lorsqu'il n'en a pas le droit. Ce n'est pas une raison. Il devait attendre que la session parlementaire s'ouvre, bien qu'elle soit essentiellement budgétaire, on peut offrir une autre extraordinaire pour effectivement traiter la question de la CENI, mettre en place un bureau qui devra statuer sur le calendrier électoral, la mise à jour des listes. C'est très important ce que j'ai dit. On n'avait pas besoin d'un tel départ dans les processus électoraux de 2011, étant donné qu'il y a eu des contestations. On a contesté Malou. On l'a contesté plusieurs fois. Il n'avait pas besoin de pouvoir nous offrir ce genre de scénario au début du processus électoral que l'on veut transparent. Le rôle de la commission électorale, c'est quoi? Assurer la transparence, l'impartialité, la neutralité même du processus. C'est ce qui devait être fait. Mais ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'il a été contesté en 2006, il se permet de pouvoir publier un calendrier électoral, il s'assure des missions jusqu'en 2011, au 5 mai 2011, il devait toujours exister, comme si, pour mettre en place un bureau de la CENI, ça prendrait autant de temps qu'il s'est donné. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Et donc, pour vous, il faut carrément annuler ce calendrier?
Moi, je pense qu'ici, le chef de l'État devrait dire non, parce que je m'imagine que Maluma n'écoute que ce que le chef de l'État dit. Je m'imagine que Maluma n'écoute que ce que le chef de l'État dit. Et puisque le chef de l'État veut des élections démocratiques, transparentes, il doit dire non. Et lorsqu'il s'était, ça veut dire quoi? Qu'il me dit mon consent. C'est qu'il veut peut-être se jouer en faveur de son camp. Donc, le chef de l'État doit dire quelque chose pour dire, par exemple, non. Si, au niveau de la Constitution, il y a eu des violations, si on n'a pas respecté la loi, si on n'a pas respecté l'arrêt qui a été rendu par la Cour de justice, que le chef de l'État dise vraiment. C'est comme si tous les partis politiques qui existent et n'ont pas la raison de leur existence. Non, mais les élections, c'est ça même la nourriture des partis politiques. Ils existent effectivement pour conquérir le pouvoir et le conserver aussi longtemps. Mais si déjà le processus électoral est biaisé, pourquoi ces partis existent? Donc cette commission existe pour un seul camp et pas pour l'autre camp. Donc le chef de l'État doit dire Raymond pour que Maluma l'écoute finalement.
Voilà, merci Ambroise Mamba et aussi l'Union pour la Nation, cette plateforme de l'opposition de son côté qui déplore aussi la violation de la Constitution dans le chef du président de la CEI. Selon le coordonnateur de l'Union pour la Nation, la commission électorale indépendante est plutôt appelée à céder la place à la CENI, seule structure habilitée non seulement à dresser le calendrier électoral, mais aussi à représenter valablement la majorité et l'opposition. Pour Clément Kankou, l'Union pour la Nation attend user de toutes les voies légales pour la mise en place urgente de la CENI. Le mouvement de libération du Congo exige aussi des concertations politiques en vue de garantir un processus électoral consensuel. Dans un communiqué publié jeudi soir, ce parti dénonce le délai trop long introduit entre les différentes étapes dans ce calendrier et parle carrément d'une violation de la Constitution. Martial Ngoyi, réaction par rapport à la réaction de ces deux plateformes, ces deux partis de l'opposition.
Ouais, mais je dis que au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle l'opacité. Les élections, Kelly, les élections, si elles ne sont pas transparentes, si elles sont bâclées, elles sont, à mon avis, une bombe à retardement. Donc, personne n'a intérêt à assister à des nouvelles scènes de troubles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2006, au premier et second tour. Il y a eu des affrontements armés dans la ville. Personne ne pouvait sortir facilement. On a vu un vice-président chercher à s'enfuir en sautant les murs, en rasant les murs. Est-ce qu'il faut qu'on revienne à cela? On a vu un vice-président quitter cette ville sur la pointe des pieds. Le président de la République le sait très bien. Les institutions qui l'accompagnent sont aussi conscientes de cette réalité. Les élections sont un moment crucial de l'histoire d'un pays, dans la mesure où ce sont les élections qui permettent d'assurer soit le maintien, soit l'alternance au pouvoir. Et donc, ce processus doit être un processus transparent, démocratique et libre. Et il ne doit pas être entaché d'opacité. Les frasques récessives de M. l'abbé Malumalu doivent cesser d'exister, doivent quitter l'agora politique. C'est pour garantir la sérénité d'esprit. Et c'est pour garantir même, n'est-ce pas, la fondation de l'édifice national. Nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons également besoin d'un état dans lequel on respecte les libertés fondamentales. Dans l'état dans lequel on garantit le pluralisme politique, la diversité, l'abondance de la diversité, l'unité du pays. Et pour qu'on puisse être là, Kelly, je ne voudrais pas aujourd'hui que par une erreur, par des sautes d'humeur d'une personne, qu'on puisse encore planter les germes d'un conflit généralisé. Souvenez-vous que la guerre de l'Est a quitté l'Est et s'est retrouvée un moment au centre, chez moi à Kabinda. Cette guerre de l'Est a quitté un jour pour se retrouver au sud, en train de frapper les collines, ou je ne sais pas, les lacs de Tanganyika. Donc, quelque part du côté de l'Ouvira, vous allez retrouver tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus électoral, c'est un processus important. Il est tellement important que le prêtre, qui a choisi désormais de retourner à l'église, doit retourner à l'église. Priez pour que ce processus soit un processus qui bénéficie, n'est-ce pas, de la garantie de la bénédiction de l'Éternel. Je souhaite vivement, M. Lavoué, Malumalu, de retourner à l'église tranquillement.
Il a retourné à l'église, il a promis le réel. Il y a aussi cette autre réaction du sénateur Henri Thomas Lokondo, qui estime aussi que la CEI n'est pas habilitée à publier le calendrier électoral, mais il ajoute que la CEI l'a fait à titre indicatif pour éviter le vide juridique et pour permettre à la CENI d'apporter des corrections le moment venu.
C'est une très bonne chose. La réaction du sénateur est importante. Le sénateur Henri Thomas Lokondo, je précise, il est membre de l'AMP. Mais s'il nous peut dire que ça titre indicatif, ça veut dire qu'il est dans les secrets de Dieu. Dieu ici est représenté par ceux qui gèrent, ceux qui gouvernent. Mais je voudrais souligner qu'attention, on ne joue pas avec le feu. Le feu bénéficie d'un principe immuable. Que vous soyez jeune ou vieux, si vous le piétinez, vous brûlez. Ici, dans le cas espèce, le processus électoral ressemble au feu. Il est immuable.
Merci Marcel. Un mot, Ambroise, on va passer la parole à Pierre.
Je déplore la réaction du sénateur Henri Thomas. Il est blessé, comme l'a dit mon aîné Marcel. L'indication de toute part, c'est quoi? Est-ce que la publication des calendriers électoraux, c'est l'indication pour lui? Il n'y a pas autre chose pour indiquer qu'effectivement les élections auront lieu. C'est ça le problème. Donc, à mon avis, il ne faut pas qu'on joue avec le feu. On n'a pas besoin de lancer un pays dans une nouvelle crise. Donc, le chef de l'État aujourd'hui n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il sortirait grand. il sortirait grand si, par exemple, toutes ces élections s'est passé dans la transparence, dans le calme, le chef de l'État sortirait grand.
Merci, Ombrage Mamba, Pierre Kemeno, Kemeno, vous avez suivi les différentes réactions des partis politiques et aussi des associations de défense des droits de l'homme qui ont réagi. Ces associations parlent aussi des violations de la Constitution et elles pensent même que les calendriers s'étalent sur une longue période allant de 2010 à 2013.
Bon, écoutez, je pense que le l'abbé Apollinaire Malumalu, bon, c'est tout simplement un beau mystère. Parce que je le disais tout à l'heure que, bon, il y a d'abord ce retard qui a été entretenu et voulu dans l'élaboration des textes. Si on avait élaboré le texte, pourtant, par exemple, l'institution de la CENI, bien avant, je pense que tout cela n'allait pas arriver. Vous avez vu que, bon, la CENI, d'abord, les textes sont venus en retard, la promulgation de la loi sur pourtant l'institution de la CENI a été promulguée avec beaucoup de retard, 3 mois après, et comme piège, si on peut s'exprimer en ce terme-là, la CENI est là sans animateur. Alors, quand on se retrouve dans ces conditions-là, vous voulez que M. l'abbé Apollinaire Malumalu fasse quoi? Parce qu'il y a aussi une pression, ça il faut le reconnaître, il faut à tout prix se prononcer sur les élections. Donc, je pense que, bon, écoutez, bon, il a accepté de se sacrifier, mais le mal est ailleurs. Ce n'est pas sur la personne de l'abbé Apollinaire Malumalu.
Ombrage Mamba, apparemment, n'est pas d'accord avec vous. Eh, mon Ombrage, on va passer au deuxième thème.
Je ne suis pas content avec les confrères tout à l'heure au téléphone, parce que la loi sur la CENI, vous allez peut-être vous rappeler qu'il y a eu des manœuvres politiciennes pour tirer les choses en longueur. Il y a eu des manœuvres politiciennes qui ont fait que la loi sur la CENI tarde, alors qu'elle était déjà votée au niveau de l'Assemblée nationale, votée en des termes différents entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais ça traînait au niveau de la promulgation, sur les bureaux de chef de l'État pour la promulgation. Donc cela ne voulait pas donner les titus à Malumalu de faire ce qu'il a fait non plus. Donc il y a eu des manœuvres politiciennes, l'Assemblée nationale a pour majorité l'AMP, le Sénat également, donc ce sont eux, à mon avis, qui ont peut-être joué avec certains jeux politiciens pour retarder les choses et ne pas disponibiliser la loi sur la CENI. Ce n'est pas à Malumalu de pouvoir disponibiliser la loi sur la CENI aux politiques. Et la loi sur la CENI a été déjà voté au niveau du Parlement, mais ça a pris combien de jours sur les bureaux du chef de l'État pour promulgation? Avant la promulgation, il n'avait rien fait. Et après la promulgation, lorsqu'il a dit que non, on devait choisir les personnalités indépendantes, Malumalu sortit l'occasion pour contraindre. Lorsqu'on parle de l'indication, non, moi je suis tout à fait contre. Donc il y a contraint, c'est un rectangle électoral contraignant. Parce qu'il y a même des missions qui sont assignées. Non, moi je dois rester là pour la révision du budget électoral jusqu'au 5 mai 2011. Ça, c'est une contrainte.
Merci, Ombrage, Marcel, en un mot.
Oui, je pense que la responsabilité de Malumalu est établie. C'est le confrère qui est en ligne, soit taisé. La responsabilité est individuelle. Monsieur l'abbé Malumalu doit porter sa croix jusqu'au bout. Il a assumé, il a accepté d'assumer la charge de sacrifier, d'être sacrifié sur l'autel des intérêts politiques. Il doit assumer jusqu'au bout. Ce que nous disons, nous, et qu'il n'a pas qualité de continuer à engager la République et surtout la commission électorale au-delà du mandat qui lui a été imparti. Il n'a pas qualité de prolonger même d'un jour, même d'une minute, d'une seconde, le mandat d'une législature. C'est ce que nous disons, nous. Le reste, ça a versé dans des considérations, nous allons nous perdre en conjecture pour rien, mais nous, ce que nous voulons est qu'on respecte la légalité pour la sérénité des esprits. Nous voulons cimenter ici, poser ici les bases, les jalons d'une République dont les autorités bénéficient de la légitimité du peuple congolais.
Merci Marcel Ngoï. Deuxième thème de ce soir, clôture mardi dernier à Kinshasa de l'atelier sur la lutte contre la corruption organisé par l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale. Cet atelier de 2 jours poursuit entre autres objectifs d'établir une feuille de route réaliste pour renforcer la lutte contre ce fléau qui mine la RDC. Thérèse Bassoli pour les détails. Dans son discours d'ouverture de cet atelier, le ministre de la Justice a suscité la passivité de la société civile. Selon lui, la société civile doit dénoncer des cas de corruption et mettre à l'épreuve l'État, ce qui, d'après Luzolo Bambi, n'est pas fait suffisamment, ce qui l'a poussé à qualifier cet atelier d'une énième rencontre qui risque d'être inutile car, d'après lui, il ne suffit pas de sortir la corruption. Il est inexplicable d'avoir 5 milliards pour un budget national et 15 milliards de francs congolais d'évasion fiscale sans que la société civile se dresse, a déclaré le ministre Luzolo. Un exemple qui a susciter la réaction de la société civile. Des cas de corruption sont signalés, mais le problème n'est pas à leur niveau, a indiqué le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption en Afrique centrale, Maître Mulumba Chibumba.
Vous avez entendu M. le ministre lui-même se plaindre lorsqu'il nous dit par exemple que les gens qui sont arrêtés se volatilisent. Mais quel est son travail? Parce que c'est lui qui a sous sa compétence les maisons d'arrêt. Comment ces gens s'évadent-ils alors qu'il est là? Mais il y a le problème au niveau de la justice, il y a un dysfonctionnement. On dénonce, on arrête les gens, et puis ils ne sont pas sanctionnés. C'est ça le problème. Et la société civile voudrait maintenant le contrôle citoyen et tout contrôle ne se conçoit qu'avec la sanction.
Toutefois, le ministre de la Justice a souhaité que cet atelier aboutisse à une meilleure collaboration entre les différents acteurs impliqués dans cette lutte. Merci Thérèse Bassoubi pour ce reportage. Pierre Kenemo, je rappelle que vous êtes directeur de programme à la radio Sang FM, émettant depuis Mbujimayi au Kasaï oriental. Encore un atelier de plus sur la lutte contre la corruption en RDC. Quel est le constat que vous faites de la lutte contre la corruption en RDC?
Il faut le dire vraiment, c'est peut-être une deuxième phase de un atelier de plus pour rien, parce que ici nous pensons que bon, on peut multiplier les ateliers, on peut multiplier les faits de route, mais aussi longtemps qu'on n'est pas encore en mesure d'améliorer les facteurs qui favorise la corruption, tout ce que l'on peut faire aujourd'hui s'avérerait en tout cas nul.
Et quels sont ces facteurs, d'après vous, ces facteurs qui favorisent la corruption au Congo?
Bon, il y a par exemple quelqu'un bon, qui n'est pas bien payé, par exemple. Tout ce que tu veux faire pour l'empêcher de ne pas être corrompu ou de ne pas corrompre, bon, et puis ça c'est nul. Hein. Les conditions de vie, la pauvreté, ce sont là autant de facteurs qui favorisent cette corruption-là.
Merci Pierre Kenemo, Marcel Ngoyi, vous avez suivi dans ce reportage le ministre qui suscite la passivité de la société civile. Pour le ministre, la société civile ne dénonce pas suffisamment les cas de corruption dans le pays.
On ne divise pas un pays avec des larmes. La République dispose des lois, des lois et règlements. Et ce sont ces lois qu'il faut appliquer. Lorsque le président de la République convoque ceux qui sont autour de lui et préside une cérémonie des magistrats nouvellement formés, et il demande à ces magistrats de l'aider à traquer les couloirs en cravate. Ça ne doit pas rester dans le firmament. Ça ne doit pas rester dans le domaine de l'imagination. Il s'agit des ordres, des instructions qui doivent être appliquées. Lorsqu'on...
Non, on a entendu déjà ce slogan, mais jusque-là, tu n'as pas appliqué.
Lorsqu'on tue Tchébéa, lorsque un chauffeur est porté disparu, où est la justice pour nous aider à nous rassurer, à être convaincus que devant nous, nous avons une justice qui peut faire son travail? Lorsque on vole, on détourne, on confie les marchés publics à des sociétés dont, et des sociétés qui n'ont pas la capacité de bien exécuter les travaux publics. 2 mois, 3 mois après, dès la première pluie de septembre, la route disparaît. Pourquoi on ne peut pas prendre les choses au sérieux? Le ministre de la Justice, parce que c'est lui qui a parlé de la société civile, il doit d'abord commencer par assumer ses propres responsabilités. Il a traqué ici le siège de la capitale, il les a envoyés en province, et est-ce que c'est une solution? Donc il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, et je crois que cela relève de ce qu'on appelle la navigation à vue. On n'a pas de feuille de route, il n'y a pas de chronogramme d'action. Et c'est pourquoi, à un moment donné, lorsque la communauté internationale ose mettre son nez dans ce qui se passe chez nous, on parle de la souveraineté, on crie à la souveraineté. Et pourtant, on n'a pas soi-même les capacités de nous assumer. Nous n'avons pas les capacités. Je voudrais ici interroger les institutions de la République sur leur sens de l'État, sur leur sens de la nation. Vous êtes au pouvoir. Ce n'est pas pour seulement accomplir le destin individuel. Vous êtes au pouvoir, c'est pour accomplir un mandat, accomplir une mission. Vous êtes alors comptable des actes que vous posez. Si vous ne les posez pas, le pouvoir ne se stocke pas. 5 ans, je disais, ce n'est pas une éternité. Aujourd'hui, on en est au contre-rebours. Les jours sont comptés. 5 ans, ce n'était pas une éternité, j'avais dit. Et tout à l'heure, quand vous commencez à dire, on a corrompu là-bas,
on a compris. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous montrer combien les colons à cravate sont arrêtés? Donc le ministre doit commencer par là, par s'exécuter, par respecter ce que le président de la République a demandé aux magistrats, par encourager les magistrats et tout ça de faire leur travail, au lieu de commencer à pointer du doigt, d'un doigt de son doigt accusateur, la société civile qui, elle, n'a pas de responsabilité, n'a pas d'impérium. La gestion de la race publique relève de ce qu'on appelle l'impérium, le pouvoir d'État. Lorsqu'on contient le pouvoir par les élections, c'est pour l'exercer. Et aujourd'hui, la lutte, c'est pour eux, pour les ministres de la Justice et tous ceux qui sont avec eux, c'est parfois de savoir s'ils peuvent se maintenir. Mais comment se maintenir avec les actes qui ne rassurent pas? Et c'est à ce niveau qu'il faut lutter pour convaincre. Il faut investir dans la persuasion plutôt que de continuer à poser des actes qui vont dans le sens de contrarier la bonne marche des institutions. Nous voulons que la corruption soit élaguée, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui élaguer la Constitution si les bases de la pauvreté continuent à laminer toutes les institutions. Chacun œuvre pour lui-même. C'est la lutte pour le ventre. C'est la lutte pour son groupe. Chacun veut se retrouver selon la partie du pouvoir qu'il a retrouvé dans le système 1 plus 4 jusqu'aujourd'hui.
Merci Marcel Ambrage Mamba, journaliste à Congo et Télévision. Vous avez suivi dans ce reportage, je reviens encore sur le ministre qui demande à la société civile de mettre l'État à l'épreuve. Il pense que ça risque d'être un atelier de trop qui ne va rien produire.
Je me demande si le ministre de la Justice n'avait pas une autre interpellation à faire à la société civile que celle-là. Est-ce que la société civile n'a pas dénoncé les cas de corruption dans ce pays?
Est-ce que c'est un simple séminaire, c'est une simple organisation d'un séminaire de lutte contre la corruption qui met traité à la corruption au Congo?
Je dis non.
Il faut sanctionner. Et pour sanctionner, il faut quoi? Il faut tout simplement sanctionner. Le chef de l'État a dit dernièrement qu'il y avait la volonté de pouvoir nommer un conseil spécial de lutte contre la corruption. Est-ce qu'il l'a fait? On a lancé l'opération Tolérance Zéro. Quel est le bilan? On parle d'échecs. Je sais même que les concepteurs de la tolérance zéro, à mon avis, seraient déçus. Parce qu'on n'a pas sanctionné, tout simplement. On a fait appel au nouveau magistrat, environ 1000 magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État. On leur a dit de craindre la loi et Dieu. Et les interférences politiques. Les interférences d'autres politiques et dans l'instruction des dossiers judiciaires. Les politiques qui appellent tout le temps les magistrats. Mais autre chose, qu'est-ce que le ministre de la Justice n'a pas pu dire? C'est que ces nouveaux magistrats, ils sont nommés en qualité de substituts procureurs. Ils n'ont pas la qualité de traquer des colons en cravate. Ça relève de la compétence des hauts magistrats. Ça n'est pas la compétence des substituts procureurs. Le haut magistrat qui les 4000, 5000 hauts magistrats qui existent déjà, est-ce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir mettre ça à la corruption? Pour qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice interpelle la société civile qui ne dénonce pas. Pour qu'aujourd'hui, on dise que les nouveaux magistrats sont des magistrats de la rupture. Mais non, on doit sanctionner tout simplement.
Et quand vous revenez sur le verbe sanctionner, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous
pensez, il y a eu des rapports de cas de corruption qui ont été établis. Hein? Il suffit seulement d'aller au niveau du parquet. On va trouver des cas de corruption de ce pays, on ne les a jamais sanctionnés. Parce que tout simplement, ce sont des politiciens, on doit les couvrir, ainsi de suite. Mais non, on ne sait pas ce qu'on veut de toute façon. Ou bien on lance des slogans comme ça, c'est une certaine démagogie qu'on veut lancer dans la population pour dire que nous sommes déterminés à en finir avec la corruption. Au finir, on n'a pas besoin de finir avec la corruption.
Je vais revenir à vous, Marcel Ngoyi, le temps de passer la parole à Pierre Kenono. Nous sommes presque à la fin de ce débat. Alors Pierre, que faut-il faire pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC?
Je le disais tout à l'heure, celui-là, qu'il faut absolument qu'on puisse améliorer les conditions de travail des gens. Je pense que si les conditions de travail sont meilleures, on va diminuer sensiblement ce genre d'histoire, donc des genres de corruption. Il faut également qu'on essaye d'aller au-delà du clientélisme politique. Il y a beaucoup de dossiers qui traînent au niveau de la justice et il y a beaucoup de cas que nous voyons ici qui ne sont pas punis parce que tel intervient, parce que tel appartient à telle famille politique. Même quand on parle de la société civile, mais de quelle société civile s'agit-il? Parce que partout dans nos villes ici, il y a toujours des sociétés civiles. Vous trouverez une société civile qui est pour le pouvoir et une autre qui est pour l'opposition. Donc, ça dépend de quel camp on se trouve. Je pense que la meilleure façon de faire, de lutter contre la corruption, c'est d'améliorer les conditions de vie et donc de punir s'il faut punir. Je pense que de cette manière-là, on peut aller de l'avant.
Améliorer les conditions de vie à tous les niveaux?
Oui, à tous les niveaux. Parce que, bon, parmi les facteurs qui favorisent la corruption, c'est aussi la pauvreté, la misère. Vous allez demander, par exemple, quelqu'un qui touche 12 000 francs et qui gère beaucoup d'argent, il doit faciliter, par exemple, un dossier. Il va percevoir les pauvres. Ça, c'est rien à faire. Donc, si les conditions de travail, si les conditions de vie sont améliorées, je pense qu'on va diminuer sensiblement la corruption.
Marcel Ngoï, pour Pierre, il faut améliorer les conditions de vie des populations pour renforcer la lutte contre la corruption en RDC. Vous proposez quoi?
Il faut mettre fin à l'impunité. L'impunité. Il existe un rapport sur la table des autorités. Par exemple, les rapports Mayobo, les rapports Lutundula, les rapports de la commission Bahati. Ce sont des rapports. Il existe aujourd'hui d'autres rapports similaires dans le secteur du bois, dans le secteur minier, dans le secteur du pétrole, l'affaire du Graben, l'Albertine, ainsi de suite. Il existe des rapports. Le problème chez nous, Kelly, c'est que on excelle dans les discours, dans les déclarations, dans les recommandations. Mais je veux vous dire qu'un seul acte vaut mieux que 1000 déclarations, que 1000 discours. On pose au moins les actes. On est tout le temps dans les déclarations d'intention. Et ce que j'ai toujours appelé les chapelets de bonnes intentions. Tout le temps, c'est ça qui tue la République. Et c'est comme ça qu'on a tué les 5 ans. On les a tués en tournant ridicule la République. On a tué le temps. Aujourd'hui, on compte. On égrène les chapelets parce que les jours sont comptés. Et on commence à bousculer Balou comme une brebis qui va vers le précipice. Il faut faire très attention. On égrène aujourd'hui parce qu'on n'est plus sûr du lendemain. On n'est plus sûr que les lendemains vont chanter comme aujourd'hui. Donc, quelque part, il faut faire très attention. La lutte, la fin de l'impunité. Le président de la République était très bien intentionné lorsqu'il avait fait le discours d'investiture. Il avait dit que les portes des prisons seront grandement ouvertes.
Et vous pensez qu'elles ne sont pas encore ouvertes?
Alors, jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, n'est-ce pas, la plupart des rapports qui incriminent pourtant des personnalités, pourquoi ces personnalités n'ont jamais été même entendues? Mais par contre, on rajoute à une vitesse qui a deux vitesses. On va dénoncer un député qui s'appelle Martin Mukonkole. Avant qu'il ne soit jugé, on lui applique la procédure de flagrance. Et tout de suite, il se trouve en prison. On décide, la cour décide, qu'on puisse le mettre en résidence surveillée. Monsieur va être traqué et amené en prison. Alors que la résidence surveillée a été décidée par la cour. Il y a des hauts magistrats qui interviennent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. La justice à deux vitesses. La justice pour les pauvres, la justice pour les riches. Ça ne peut pas permettre les négligences, les dissipations de l'état des droits. Si nous croyons en l'avenir, c'est parce que nous continuons à avoir foi en nos autorités, en ceux qui nous dirigent. Nous pensons que le personnel politique que nous avons bénéficie d'un agrégat de qualité. C'est-à-dire qu'on se dit, ce personnel est là pour nous aider à gérer ce pays. Mais si nous continuons à le gérer de la façon dont on le fait aujourd'hui,
eh bien,
il faut mettre ça à l'impunité. En un mot, il faut mettre ça à l'impunité.
C'est bien compris, Ambroise, pour Pierre, il faut améliorer les conditions de vie des populations.
Je voudrais répondre par rapport à ce que mon ami Marcel a
dit. Et vous?
Effectivement, je voudrais répondre par rapport à ce que mon ami Marcel a dit. Mettre fin à l'impunité. Le chef de l'État, le 6 décembre 2006, a dit que les portes de prison sont ouvertes. Je voudrais qu'il se pose la question, il y a 3 ans et 8 mois depuis qu'il l'a déclaré. Je voudrais qu'il se pose la question de savoir combien sont entrés par cette porte de prison. Parce qu'il avait voulu faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Combien sont entrés par cette porte de prison? Combien? Puisqu'aujourd'hui, 2011, c'est une année électorale. Les esprits sont tournés vers les élections. Est-ce qu'il aura le temps de se partager, débattre les campagnes, mais également de lutter contre la corruption, d'amener les clowns en cravate dans la prison, par exemple? C'est ce que moi je voudrais lui demander. C'est pour lui donner la question de savoir combien sont entrés par cette porte de prison qui a été ouverte le 6 décembre 2006. Si on lutte contre l'impunité, on est traité à la corruption. Ça ne va pas se passer par des simples déclarations, des simples discours, comme si tout est comme le métal.
Il faut du concret. Merci, Ambroise Mamba de Congo Télévision. Merci à Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité. Merci à Pierre Kenemo, directeur de programme à la radio Tsanga FM, émettant depuis Bujima au Kasa Oriental. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci également à Alain Hung, qui était à la réalisation assistée de Samuel Kachak, où il a été à la technique. Au micro, Céline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Continuez le programme sur la fréquence de la paix. Bon week-end à tous. Thank you.